Hello, everyone, and welcome to my podcast entitled Reinventing Global Health. The theme today is global health, access to medications in developing countries. And my guest is Dr. Robert Sebag. Dr. Sebag was Vice President Access to Medicines at Sanofi Aventis Drug Company. In his role, he participated in the company's access to medicine strategy development for the Southern Hemisphere. Prior to joining Sanofi Aventis, he worked in Brussels for the European Pharmaceutical Industry Association on creating a communication platform for the pharmaceutical companies operating in Europe. In his prior role, he was a senior vice president of communications for the vaccine company Aventis Pasteur, which became Sanofi Pasteur. In addition to his activities within the pharmaceutical industry, he is also teaching public health courses within the Paris hospital system, focusing on tropical diseases. He's active within the French Red Cross and has been involved in numerous health missions in the Global South. Dr. Sebag is a doctor in medicine, with a specialty in tropical diseases and a training in psychiatry. So welcome, Robert, and I think it's nice to meet you again and to have this interaction with you. I will now
switch. I'm very happy to be with you.
Great. I will stop and switch to French now to ask you my question. So, Robert, d'abord, donc, en français encore, bien, merci d'avoir accepté de participer à cet enregistrement et à ce podcast. C'est un plaisir de t'entendre et de te voir aussi en bonne santé, en pleine forme. Et je vais te poser ma première question qui est la suivante. Quelle est la situation en ce qui concerne l'accès aux médicaments dans les pays en voie de développement?
Alors, première chose, c'est vrai que j'ai eu une responsabilité sur la problématique d'accès aux médicaments, en particulier dans les pays du Sud, chez Sanofi, que j'ai quitté il y a 7 ans, mais enfin, je continue aujourd'hui avec différentes casquettes à regarder ce problème de près. La réalité, c'est que on s'aperçoit aujourd'hui que 70 à 80% de la population mondiale n'a pas accès à des médicaments qui sont qu'on peut appeler même des médicaments essentiels. Ce n'est pas qu'un problème de prix. Par exemple, le problème d'accès, c'est un problème à la fois politique, un problème de logistique et un problème de responsabilité de la part des autorités sanitaires. Donc, quand on voit ça, on essaye de regarder quelle est la situation, si vous voulez, en termes de santé publique dans différents pays et quelles sont les maladies qui mériteraient, si vous voulez, de faciliter l'accès. Alors, c'est vrai que tout a un petit peu changé, si vous voulez, avec le sida. C'est vrai que l'apparition du sida et quand on a compris la réalité de cette pandémie, en particulier dans les pays du Sud, et que des médicaments existaient dans le Nord, hein, c'était l'époque où on disait les malades sont au Sud, les médicaments sont au Nord, il y avait une sorte de révolte de dire, mais attendez, on a des moyens aujourd'hui et les gens qui sont touchés par cette maladie n'ont pas accès. Et ça, c'était une prise de conscience. Je rappellerai peut-être le problème du procès en Afrique du Sud, si vous voulez, où le pays qui avait plus de 6 millions de personnes séropositives avait décidé de passer outre la propriété intellectuelle pour favoriser l'accès, en sachant que le coût des médicaments antirétroviraux qui existaient, hein, on avait déjà les trithérapies en 1996, donc à la fin du 20e siècle, et qui n'avaient pas d'accès dans ces pays qui étaient extrêmement touchés. On savait que le prix réel était de 12 000 euros par an, plus de 1 000 euros par mois. Et quand on sait que la dépense moyenne en Afrique, dans ce continent africain, en Afrique subsaharienne, elle est de quelques euros par personne et par an, on disait c'est pas possible. Donc il fallait passer outre, si vous voulez, et faciliter l'accès, c'était faciliter le prix et effectivement permettre d'avoir des génériques, d'avoir une trithérapie à un coût 15 à 20 fois ou 30 fois inférieur. Donc ça, c'était un petit peu le défi. Et puis quand on a parlé du sida, on a dit d'accord, il y a le sida, mais il y a aussi le paludisme, la maladie du sommeil, les leishmaniose, tout un certain nombre de maladies tropicales négligées, parce qu'elles sont négligées et qu'elles existent encore. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, moi, ce que j'ai pu faire à partir des années de 2004, dans une grosse industrie, avec l'accord du président, parce qu'il faut toujours que dans le monde pharmaceutique et le monde du business, faut pas avoir peur des mots, c'était de dire, voilà ce qu'il est possible de faire, parce que Sanofi a une tradition avec les vaccins, avec un certain nombre de médicaments contre le paludisme, la maladie du sommeil, les leishmanioses, la tuberculose et j'en passe, de dire, voilà, il faut essayer de modifier le modèle économique et de voir ce qu'il est possible de faire avec, bien sûr, des participations extérieures, hein, parce que l'industrie seule ne peut pas faire. Et donc, mon premier défi, si vous voulez, ça a été sur le paludisme. Et le paludisme, c'était les recommandations de l'OMS de dire, voilà, le traitement du paludisme, il faut qu'il y ait un dérivé de l'artémisinine associé à une molécule connue pour ses propriétés antipaludiques. Et donc, il y avait un organisme qui s'appelle DNDi, Drug for Neglected Disease Initiative, qui voulait faire une combinaison fixe d'artésunate et d'amodiaquine, l'amodiaquine étant un médicament connu dans le portefeuille de Sanofi. Et DNDi, si vous voulez, n'avait pas les moyens pharmaceutiques à la fois de fabrication, de faire les études cliniques, de préparer un dossier pharmaceutique pour l'enregistrer. Et donc, en 2004, ils sont venus voir Sanofi en disant, voilà, vous avez un savoir-faire, vous avez l'amodiaquine, il y a l'artésunate, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec nous et de créer un partenariat, mais à trois conditions. Ça me paraît important et après nous pourrons développer. Les trois conditions, c'était voilà. Un, on fait un développement en commun. Développement, ça veut dire on va essayer cette combinaison fixe d'artésunate et d'amodiaquine pour voir si elle est utile, à quelle dose, pour traiter les crises de paludisme. Premier point. Deuxième point, il faut que ce médicament coûte moins de 1 euro chez l'adulte pour 3 jours de traitement et moins de 50 cents chez l'enfant, 3 jours de traitement. Et le troisième point, vous ne prenez aucune propriété intellectuelle, pas de brevet. Donc là, c'est pas habituel dans l'industrie. Et donc, on regarde un petit peu, on dit est-ce qu'il est possible d'avoir ce médicament à faible coût, de refuser la propriété intellectuelle, et on dit OK, et on signe cet accord. Pendant 2 ans, DNDi mène un certain nombre d'études sur la propriété du produit, nous mettant en forme la combinaison fixe d'artésunate amodiaquine. On s'aperçoit qu'il faut 3 jours de traitement à 3 comprimés par jour pendant 3 jours, si vous voulez, ce qui diminue nettement la dose. Et on arrive à le faire à ce prix-là. On l'enregistre, il est préqualifié par l'OMS. On décide d'un site de fabrication. Ce site de fabrication, il est au Maroc, pour l'exporter partout. Et à partir du moment où il est préqualifié, comme il y a eu la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, il y avait des financements pour les pays. Et donc, on a lancé ce produit. Ça a été une réussite, puisqu'il s'en est vendu quasiment 1,5 milliard de traitements. Donc, vous voyez, 500 millions de doses, ce qui fait des milliards de comprimés, et à ce prix-là, à un prix donc de moins de 1 euro. Et donc, ça a facilité l'accès et ça a nettement amélioré la situation du paludisme sur la crise de paludisme. Et ça a montré, si vous voulez, qu'un partenariat entre une grande industrie pharmaceutique et une fondation privée qui est DNDi à Genève pouvait marcher. C'était vraiment un succès.
Oui, très bien.
Devant ce succès.
Attends,
ça c'est la première expérience, si vous voulez.
Oui, justement, je voudrais prendre justement ce cas qui est très intéressant pour poser quelques questions. Quels ont été les résultats concrets? Est-ce que tu as des chiffres là-dessus ou par exemple?
Alors,
oui, au niveau de la prévalence et de l'incidence du paludisme, est-ce qu'il y a des régions où ça a mieux marché que d'autres et dans quelle mesure ça a marché?
Alors, si vous voulez, ce qui était important, c'était que d'associer, bien entendu, la disponibilité du médicament à des programmes d'éducation, en même temps d'expliquer, et c'était lié bien sûr au déploiement qui était fait avec l'UNICEF, d'autres organisations, des moustiquaires imprégnés. Et ce qui était important à voir, si vous voulez, c'était de dire qu'en faisant ce prix, qui était un prix qu'on appelait en anglais « no profit, no loss », prix coûtant, était tout à fait abordable et financé par le Fonds mondial, que ça a permis de maintenir l'emploi dans une usine au Maroc, puisqu'on l'a fabriqué par millions et millions de comprimés, Et puis, bien sûr, alors, j'ai pas les résultats pays par pays, mais il était très, très clair que quand vous avez la distribution de 500 millions de traitements antipaludiques, ça a nettement diminué les crises. Et on sait que aujourd'hui, on est quand même sur une réduction, si vous voulez, quand il y a accès à ces médicaments, des crises de paludisme. Bon. Et d'un point de vue économique, c'est important pour, du côté d'industriels, ils n'ont pas perdu d'argent. Et je peux vous dire même, mon cher confrère, que quand on a démarré le prix à moins de 1 euro les 3 jours de traitement, eu égard au nombre de traitements en termes de productivité, on a réussi à baisser même ce prix, puisqu'on en fabriquait beaucoup plus. Non, ça... Et donc que personne n'a perdu d'argent et que ça a amélioré l'accès. Ça, c'est... Et donc, c'est un exemple extrêmement important.
Oui, c'est un exemple de succès retentissant. Il n'y a aucun doute. Le côté accès aux médicaments montre, enfin, le fait que ça n'a pas complètement éradiqué le paludisme montre.
Non, a... parce que.
Alors, il y a d'autres problèmes.
Bien entendu.
Il y a d'autres problèmes.
Il y a d'autres.
Oui, attends, s'il te
plaît. Il y a d'autres problèmes, oui.
Oui, c'est ça. Et j'aimerais bien qu'on aborde ça aussi, parce que au-delà de la politique, il y a aussi le problème de l'infrastructure, il y a le problème des ressources humaines qui font que ça ne peut pas se limiter au prix, l'accès des médicaments, l'accès aux médicaments.
Alors, vous avez tout à fait raison, et c'est un petit peu ce que nos amis anglo-saxons disent, « drug alone is not enough ».
Voilà.
Le médicament n'est qu'une partie de la solution. Voilà. Et par exemple, c'est pas parce que les médicaments arrivaient dans le pays qu'on était certain de la distribution de ces médicaments. Voilà. Parce que pour distribuer les médicaments, il faut des centres de santé, il faut des agents de santé communautaires, il faut être sûr que les gens prennent bien les médicaments et ne les cachent pas. Et donc, tout le problème de la compliance au traitement, d'être sûr que le médicament est absorbé, et c'est là où la difficulté réside. C'est pour ça que le médicament seul, il est très important, mais ça veut dire qu'il faut convaincre les autorités sanitaires qu'elles mettent des moyens, et qui sont souvent des moyens humains, et qu'on soit sûr que le médicament, il ne va pas être jeté parce que pour telle ou telle croyance. Et donc, c'est là où toute l'importance des programmes d'information, de communication, d'avoir des relais locaux, et d'avoir des relais locaux avec des organisations non gouvernementales. On a travaillé avec le Comité international de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, Action contre la faim, où ils avaient ces médicaments et qu'ils les mettaient dans leur programme de santé, dans leur programme d'accès auprès des populations. Et ça, c'est un point fondamental. Le médicament est une partie de la réponse, mais est-ce qu'il va être distribué? Et c'est, si vous voulez, le gros problème de la tuberculose. Parce que quand vous parlez du traitement du paludisme, c'est 3 jours, c'est rien. Mais quand vous avez l'accès aux antituberculeux, quand on sait qu'un traitement moyen, quand il n'y a pas de résistance, il est de 6 mois, est-ce qu'on est sûr que les personnes prennent leurs médicaments tous les jours? Quand on regarde le sida, même si vous avez des antirétroviraux, et donc on sait que c'est un traitement chronique à vie, et que si on l'arrête, vous avez une recrudescence de la charge virale, être sûr que les malades... Et donc là, c'est, si vous voulez, c'est toute la problématique du suivi et d'être là pour vérifier de la prise du médicament. Et ça, c'est fondamental, c'est la notion d'observance.
Oui. Et est-ce que donc, sur cet exemple qui a été retentissant, succès retentissant, est-ce que ça a continué? Quelle est la tendance? Est-ce que ça a été répliqué pour d'autres maladies?
Alors, devant ce partenariat à succès sur le paludisme, ou si vous voulez, à la fois le monde de l'industrie, donc les équipes à l'époque, mes équipes, et les équipes de DNDi à Genève, ils ont appris à se connaître et de dire bah, les industriels, c'est pas tous des salauds, et les ONG, c'est pas tous des salauds. Et donc, on a appris à se connaître, cette rencontre des deux mondes. Moi, je disais souvent qu'il s'agissait plus d'un mariage de raison qu'un mariage d'amour, et c'est les mariages qui tiennent le plus souvent. Et donc, on a dit, ben voilà, on a réussi avec le palu, qu'est-ce qu'on peut faire sur une autre maladie? Et le choix a été porté sur la maladie du sommeil, la trypanosomiase africaine, et dont on sait, si vous voulez, qu'elle est loin d'être éliminée, que c'est une maladie mortelle, et que le traitement de cette maladie, un traitement extrêmement lourd, puisqu'il y a des traitements Larsobal à base d'arsenic, qu'il y a des traitements qui sont des traitements injectables de pentamidine, des traitements à base d'eflornithine qui nécessite des perfusions. Donc, vous voyez, au fin fond de l'Afrique où sévit la maladie du sommeil. Et donc, on a dit, il faudrait qu'on trouve une réponse d'un médicament qui marche par voie orale. Et donc, on a regardé le portefeuille. Vous savez que toutes les grandes industries pharmaceutiques, elles ont des librairies chimiques avec des milliers de molécules qui n'ont pas toujours été. Et donc, DNDi a décidé de screener un certain nombre de molécules du portefeuille de Sanofi et d'Aventis. Et ils ont trouvé un nitroimidazolé qui s'appelle le fexinidazole. Vous voyez la famille des imidazolés comme le flagyl. Et ils l'ont testé sur les trypanos in vitro. Mais ils ont dit, ce produit, il a des propriétés trypanocytes importantes. Et donc, on a dit, ben voilà, on va essayer de développer le fexinidazole qui pourrait marcher par voie orale sur la maladie du sommeil. Et là, on est reparti sur un partenariat. Et à la différence du paludisme, parce que pour le paludisme, vous avez le Fonds mondial, il y a de l'argent, on a dit, pour la maladie du sommeil, ce médicament, on va le faire gratuitement. Et là, il y a eu un partage des tâches dans ce partenariat. C'était deux choses. DNDi, vous allez faire le développement clinique, donc les essais cliniques sur la maladie du sommeil, à la fois la phase 1 lymphatico-sanguine et la phase neurologique. Hein, et je rappelle, c'est une maladie mortelle. Et puis Sanofi va faire le développement pharmaceutique. À quel dosage, combien de comprimés, et préparer un dossier d'enregistrement. Et ensuite, DNDi, qui est très présent, en particulier où sévit la maladie du sommeil, surtout en République démocratique du Congo, de dire on va faire des essais cliniques et si ça marche, on va préqualifier ce médicament et on va le distribuer gratuitement. Ça a pris quelques années et on s'est aperçu que 10 jours de traitement par voie orale de ce médicament était la maladie du sommeil, aussi bien dans la phase primaire lymphatico-sanguine que dans la phase neurologique, avec 10 jours de traitement par voie orale, qui changeait complètement le pronostic. Ce médicament a été enregistré, ce médicament est remis gratuitement par Sanofi à DNDi, et c'est en cours aujourd'hui, et ça marche. Et donc, comme il y a en quelques cas encore de maladies, on espère que la facilitation d'un traitement par voie orale de cette maladie va nous faire approcher de l'élimination de la trypanosomiase africaine dans un certain nombre de pays. Donc voilà une belle histoire aussi.
Voilà une belle histoire qui d'ailleurs m'amène à poser la question suivante, qui est de qui décide de la stratégie de la lutte contre ces maladies tropicales, parasitaires, et en particulier celles qui sont transmises par les vecteurs. Parce que dans les deux cas, évidemment, il y a un vecteur qui transmet le parasite.
Voilà, parce exactement, que la mousse TC pour la maladie du sommeil.
Oui.
Et l'anophèle pour le palu.
Voilà. Donc la TC pour la maladie du sommeil et l'anophèle pour le palu. Bon. Alors, parce que, pour moi, de ma perspective, il serait plus intéressant de détruire, de couler le porte-avions que de descendre les avions quand ils sont en vol. Donc, la lutte antivectorielle, à mon avis, devrait être le centre de cette stratégie. Alors, et d'où ma question que je te repose, qui décide de la stratégie?
Alors, vous savez que vous avez les deux. Hein, comme je vous ai dit, pour le paludisme, le médicament seul ne suffit pas. Les moustiquaires imprégnés sont importantes. Et puis, la lutte vectorielle. Mais vous savez que c'est très, très difficile, la lutte vectorielle. Ça demande quand même des passages avec des produits qui peuvent être parfois toxiques. Je vous rappelle que le DDT, il a été efficace sur un temps, mais il y a eu une résistance de la part des moustiques concernant le DDT, puis on s'est aperçu quand même que ça pouvait être toxique au niveau des cultures. Sur la mousse TC, vous connaissez bien les pièges qui étaient posés au bord des rivières en noir qui attiraient les mouches, mais ça ne suffisait pas, puisque on sait que c'est la personne qui est malade et qui a le parasite qui va être piquée par une mousse TC, qui va prendre le parasite et aller piquer un autre individu. Donc, la lutte, c'est bien sûr le vecteur, mais c'est aussi le patient. Oui. Donc, il faut mener de front. Ça se fait davantage sur le paludisme que ça se fait sur la mouche TC. Mais le jour où on n'aura plus un patient qui soit infesté par le trypano, on aura fait disparaître la maladie.
D'accord, mais
en sachant.
D'accord, mais un vecteur, mais vous... un vecteur, une mouche tsetse infecte, après avoir s'être abreuvé de sang sur le patient infecté, infecte un nombre X de
Oh non, elle peut mourir avant. Hein.
Elle peut mourir avant, mais enfin.
Mais vous avez raison. Elle peut effectivement. Mais la stratégie pour répondre à votre question.
Oui, voilà.
Vous avez à l'OMS un département chargé qui était tenu par Jean Janin, qui a pris sa retraite depuis, sur les maladies tropicales négligées, et vous aviez à la fois, j'ai envie de dire, trois programmes. Un programme de lutte vectorielle sur la tsetse, très difficile. Un programme, bien sûr, comme je vous l'ai dit, et on a travaillé beaucoup avec l'OMS, un programme sur les médicaments et un programme d'éducation également sur la maladie du sommeil, expliquer aux gens, etc., comment se protéger, en particulier dans des zones connues, donc de bouger de certaines zones qui étaient connues comme endémies de mouches tsetse. Et cette stratégie, elle est définie au niveau central par l'OMS et elle est déclinée ensuite sur des programmes nationaux de lutte, comme il y a un programme national de lutte contre le paludisme, un programme national de lutte contre la maladie du sommeil, contre la tuberculose, etc. Mais la stratégie, elle est définie, mais après, il faut qu'elle soit mise en œuvre localement.
C'est ça. L'OMS n'a qu'un rôle de recommandation, il n'a aucun pouvoir d'implémentation sur le terrain, et l'OMS est un organisme politique.
Donc, vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que c'est important de sensibiliser les pays et que ces pays mettent des moyens, même s'ils ne sont pas nombreux, au sein de leur équipe sanitaire, d'inclure un programme de lutte palu, un programme de lutte. Je vais vous donner une anecdote. Quand je me suis occupé de la maladie du sommeil, j'ai fait de nombreux séjours, j'en ai fait un au Tchad, à la frontière de la République centrafricaine, qui est un haut lieu de maladie du sommeil. En une matinée, on a détecté 16 cas dans un petit village. Et que, à mon retour à N'Djamena, j'ai été reçu par Idriss Déby, il était vivant à l'époque, président de la République du Tchad, avec ses ministres. Et je lui ai dit, voilà ce que j'ai fait, monsieur le président. Et il me dit, t'es quoi cette maladie? Alors, il se tourne vers le ministre de la Santé, et il lui dit, vous ne m'avez pas parlé de cette maladie, je ne savais pas qu'on avait cette maladie chez nous. Simplement pour vous dire que ça peut sourire, mais ça montre, si vous voulez, que l'information ne passe pas toujours entre une décision politique, comme vous l'avez dit, faite à l'OMS au niveau de Genève et au niveau terrain.
Oui.
Et donc c'est pour ça qu'il y a un rôle extrêmement important de faire prendre conscience aux autorités sanitaires de la réalité de telle ou telle maladie.
Oui, alors là, tu viens de souligner un obstacle majeur qui est justement les décisions politiques sur le terrain. Mais je voudrais revenir sur l'exemple que tu as donné de la maladie du sommeil. Qu'en est-il advenu des équipes mobiles de JAMO? Est-ce que ça continue?
Ah là là.
Ah bah oui.
Non, alors, il existe encore, alors. Quand moi j'ai fait cette mission au Tchad, on avait créé une équipe mobile, mais elle n'est pas systématique comme c'était le cas de JAMO qui débarquait. Alors vous savez que ça a été très critiqué aujourd'hui, hein. On parlait de néocolonialisme d'arrivée, mais en tous les cas, il était extrêmement efficace. Et c'est vrai que à l'époque, il avait lutté. Et quand on regarde l'épidémiologie de la maladie du sommeil à travers les âges, on s'aperçoit que jusque dans les années 60, où effectivement, je parle de l'Afrique francophone en particulier, il y avait une baisse massive des cas. Et où là, il y avait une prise en charge de la santé par des équipes mobiles. C'était la santé, c'était la médecine coloniale française, parfois militaire aussi. Et à partir des indépendances des pays, il y a eu une recrudescence énorme de la maladie. Parce que cet effort des équipes mobiles, elle avait disparu. Et c'est très intéressant votre question parce que les chiffres sont là. Je ne prendrai aucune responsabilité politique de juger, mais la réalité, elle est là.
Oui, et donc voilà un exemple type de l'influence politique. Et justement, je voudrais poser la question à ce niveau-là. Quels sont, à part l'ignorance, comme l'exemple que tu as cité là, au Tchad, quels sont les obstacles au niveau politique?
Les obstacles au niveau politique, c'est quelle place on veut donner à la santé et au partenariat international. C'est ça. Et si vous n'avez pas une priorité définie, et quand je dis priorité, c'est pas simplement des paroles, c'est qu'il y a un vrai budget de la santé avec des priorités sanitaires en fonction de l'épidémiologie, si vous voulez. Et c'est là, quand on va sur le terrain, qu'on s'aperçoit, ben, en fin de compte, il n'y a rien. Vous avez un ministre de la Santé, mais quelle est la priorité donnée à telle maladie? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a bien formé les gens? Est-ce qu'il y a un budget pour ces gens? Quand vous voyez, vous avez un problème majeur dans les pays d'Afrique que vous connaissez bien, c'est ce que les anglo-saxons appelaient le brain drain, la fuite des cerveaux. Vous avez, à partir du moment où vous n'avez pas défini un budget pour la santé, eh bien, des infirmières africaines, elles vont partir. Il y a 8000 infirmières, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est du Botswana, qui ont quitté, qui sont venues en Angleterre. Vous avez plus de médecins béninois en région parisienne que dans le Bénin.
Voilà.
Et donc c'est ça les décisions politiques, pardon. Mais oui. Moi, je ne juge pas, je n'accable personne, je vous donne des chiffres.
Voilà. Et dans le brain drain, il y a aussi d'autres facteurs, évidemment, qui rentrent en jeu, comme le salaire.
Ce sont des facteurs économiques, bien sûr. Mais si on ne met pas un budget, si on ne donne pas la possibilité financière de payer des infirmières, mais je ne dis pas que des médecins, des agents de santé communautaire, vous allez dans certains dispensaires, il n'y a rien. Ils n'ont rien. Donc, au bout d'un moment, ils se lassent et ils partent.
Oui, j'ai très bien connu ça. Alors, est-ce que ça s'améliore ou pas?
Oui, je dois dire que le développement de l'information, des réseaux sociaux, d'Internet, fait qu'aujourd'hui, les gens sont conscients qu'il existe des solutions et que quelque part, entre guillemets, il y a une sorte de révolte et qu'on ne peut plus berner des populations. Vous voyez, on ne peut plus accepter. Donc, cette prise de conscience, si vous voulez, elle me paraît importante, qu'aujourd'hui, la santé publique, ce qu'on appelle le global health, est devenu une priorité sur tous les... Quand vous regardez les nouveaux objectifs du développement durable, les 17 articles signés par tous les pays, vous avez l'article 3 qui concerne tous les problèmes de santé, où vraiment on met le paquet sur l'accès aux médicaments, l'accès à la santé pour les populations, et on attend des résultats, on verra quel sera le bilan. Mais vous savez, au-delà des maladies dont nous parlons, des maladies tropicales négligées, du paludisme, etc., du sida, bien sûr, il ne faut pas oublier les maladies chroniques. Quand vous voyez que, par exemple, et ça c'est indépendant du niveau de vie ou du climat de ces pays-là, le diabète devient un problème important dans les pays du Sud. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, vous avez les mêmes prévalences. Et alors, je ne parlerai pas de ce qui est le parent pauvre de la santé publique dans les pays du Sud, qui est la santé mentale. Parce que la santé mentale, elle touche à des facteurs culturels. J'ai beaucoup travaillé sur deux sujets qui sont l'épilepsie et les psychoses chroniques, en sachant que quel que soit le pays développé ou en voie de développement, le risque, il est de 1% de la population, aussi bien pour l'épilepsie que pour les maladies mentales, les maladies psychiatriques. Mais quand vous êtes un malade, et vous le savez, Yann, quand vous êtes un malade épileptique, quand on sait ce que représente une crise d'épilepsie, mais pour les populations, c'est pas rationnel. La personne est habitée par un esprit, elle est bewitched. Et donc, il y a une exclusion. Et parfois, on les tue, parce qu'on pense qu'ils sont habités par le démon. Et donc, la première chose, par exemple sur l'épilepsie, c'est d'expliquer aux familles, d'expliquer aux patients, d'expliquer aux marabouts, d'expliquer aux infirmiers que c'est une maladie. Et vous savez combien ça coûte un traitement anti-épileptique? Les premières lignes, tout bêtement, le phénobarbital, ça coûte par personne et par an 2 €. Un traitement complet. Donc, vous voyez que le médicament, c'est pas la solution. Là, c'est le dernier recours. Mais d'abord, il faut éduquer les gens.
Qui fait cet effort d'éducation?
Alors, justement, c'est tout un travail. Et moi, dans mon département, à l'époque, malheureusement, bon, j'ai quitté il y a 7 ans, ça n'a pas été poursuivi. J'avais une équipe dédiée et on avait des partenariats dans beaucoup de pays d'Asie et des pays d'Afrique sur l'épilepsie. Formation des infirmiers, formation avec des organisations non gouvernementales, j'ai oublié le nom, avec des Anglais en particulier, qui étaient ravis et qui d'abord expliquaient que c'était une maladie et ensuite qui leur donnaient accès à des médicaments. Le médicament, je répète, 2 € par personne et par an. Oui. Et si vous prenez les psychoses chroniques, oui. C'est énorme.
Si. Oui, d'accord.
En Inde, oui, alors, en Inde, oui, au Myanmar, oui. Où je suis allé mener des missions, les hôpitaux psychiatriques, c'est des prisons. Les gens sont attachés avec des chaînes.
Oui, oui, oui. Tout ça, c'est vraiment, ça illustre bien l'envergure.
Alors que les solutions médicales existent. Et vous avez raison. Quand vous réfléchissez à ça, le problème est un problème politique.
Voilà. Et qui détermine les facteurs de limitation de tous ces programmes, qui est l'infrastructure et les ressources humaines.
Exactement. Et d'ailleurs, moi, je me suis battu il y a quelques années pour qu'on introduise la santé mentale dans les priorités sanitaires. Et c'est dans les nouveaux objectifs du développement durable qui ont été votés en 2015, si ma mémoire est bonne.
Mais si on revient aux maladies chroniques, quand même, le numéro un...
Là, il y a du boulot. Là, il y a du boulot. Hein.
Ah oui, c'est ça. Parce que le facteur numéro un, c'est comme dans les pays développés d'ailleurs, c'est les maladies cardiovasculaires.
Et le diabète.
Et le diabète, oui. Et là, on ne voit pas vraiment. Alors, est-ce qu'il y a, à ta connaissance, est-ce qu'il y a des programmes à ce niveau-là?
Je sais qu'il y a certaines. Il y a certaines ONG, j'en avais vu au Mali, alors je ne sais pas ce que c'est devenu avec la situation au Mali actuelle, qui s'occupaient du diabète. Mais le diabète, vous savez, c'est très compliqué parce que vous avez, comme dans les pays développés, vous avez le diabète de type 1 chez des enfants où là, ils sont insulinodépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut non seulement l'accès à l'insuline et ce n'est pas facile à manier, deuxièmement, il faut faire des contrôles réguliers. Et ensuite, il y a tout le problème nutritionnel. Et quand vous prenez les diabètes de type 2, là aussi, c'est l'accès à des sulfamides hypoglycémiants, parfois à des insulines, qui coûtent relativement cher, mais qui sont très, très difficiles à manier. Ça veut dire qu'il faut éduquer le patient à se faire des injections, faire des dosages réguliers de sa glycémie, et ensuite adapter un régime nutritionnel. Vous voyez la difficulté, vous qui êtes allé beaucoup sur le terrain?
Oui, c'est clair.
Donc vous voyez les difficultés. Oui. Et pourtant, on les connaît. Et donc là aussi, ce sont des priorités. C'est ça la santé. Et c'est là aussi, c'est des priorités sanitaires des gouvernements. Et je ne vous parle pas des cancers, parce que l'oncologie, hein, manier des anticancéreux, et vous savez que les lymphomes en Afrique sont très très fréquents. Très fréquents. Hein, les lymphomes de Burkitt et tout, vous connaissez ça. Et donc là-dessus, et le Kaposi, bien sûr. Et là-dessus, comment on fait? Il n'y a pas d'oncologue? Il n'y a pas. Donc là, il y a un manque. Il y a non seulement la prise de conscience politique, mais le manque de ressources humaines, de médecins spécialistes, d'infirmiers et les médicaments. Même si les médicaments, on peut les avoir. Il y a des programmes aujourd'hui. Beaucoup de laboratoires commencent à développer des anticancéreux en Afrique, mais même des anticancéreux de première génération. Mais qui va les remettre? Comment on va surveiller ça? Les effets secondaires liés à ces médicaments? Donc, vous voyez que le chemin, il est encore long. Hein.
Oui, et alors là, justement, si on revient au problème du brain drain, les oncologues qui sont formés dans les pays, on peut dire par exemple au nord de l'hémisphère nord, en France ou aux États-Unis.
Mais ils ne veulent plus retourner quand ils rentrent chez eux. Ils n'ont aucune infrastructure.
Ils n'ont pas les moyens.
On forme des hématologues, des cancérologues, mais quand ils rentrent chez eux, ils n'ont rien. Il n'y a pas un appareil de radio, il n'y a pas un scanner. Comment ils font? Il n'y a pas de médicaments.
J'ai connu un bon exemple il y a longtemps, quand j'étais encore dans le service de Gentilini, avec la première ophtalmologue du Cameroun qui s'était formée à Paris. Ben elle n'est pas retournée parce que dans son enseignement, il y avait l'utilisation importante des lasers, il n'y avait pas de laser dans son pays.
Voilà. Et voilà. Donc, voyez, ce qui est très important, et c'est ce que vous faites, c'est faire passer ce type de message et qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Alors, après, là aussi, il faut que l'aide au développement, alors, en général, qu'il ne soit pas, parce que même l'aide au développement, aujourd'hui, elle est remise en question, c'est du néocolonialisme, mais il faut que l'aide au développement, elle soit consciente de ses difficultés et qu'elle mette, si vous voulez, cette aide en priorité dans les domaines. Et vous savez, la santé est une valeur universelle. La richesse d'un pays, c'est la santé de ses habitants.
Alors, je voudrais te poser deux questions. Bon, d'abord, l'aide au développement. Est-ce que tu as vu, parce que de plus en plus, on est passé maintenant à des aides multilatérales, alors qu'auparavant, il y avait des aides bilatérales. Est-ce que tu as vu les avantages et les inconvénients des deux quand on est passé de l'un à l'autre?
Alors, il y a un succès, à mon sens, c'est la création du Fonds mondial. Je pense que le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui est doté quand même de plusieurs milliards, a montré de bons résultats. En particulier dans le domaine du sida, dans le domaine du paludisme, un peu moins au niveau de la tuberculose. Il y a eu quand même un accès aux antirétroviraux, il y a un suivi, et c'est vrai que quand on regarde le nombre aujourd'hui, vous avez quand même des millions de personnes qui n'avaient pas accès, je dis bien des millions sur le sida, qui aujourd'hui ont un accès à ces médicaments avec tout le suivi. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé le multilatéral. Alors après, le bilatéral, si vous voulez, ça dépend des pays. Vous avez des pays où ça fonctionne assez bien. Je pense à la Côte d'Ivoire, par exemple. La République démocratique du Congo, elle est en lutte avec tellement de luttes intestines, de guerre civile à la frontière avec le Rwanda, où là, on a très, très peu d'accès. Et on l'a vu, par exemple, sur la maladie du sommeil, l'accès est très, très difficile. Ce sont des régions reculées avec des risques politiques extrêmement importants. Mais même si je quitte l'Afrique pour aller en Asie, moi, j'avais lancé des programmes au Myanmar, ex-Birmanie, où avec la situation politique en Birmanie, il n'y a plus d'accès. Donc, on ne sait plus du tout ce qui se passe, il n'y a plus d'aide, et puis surtout, il n'y a pas de vérification de l'aide. Donc, regardez, vous, c'est des pays que vous connaissez bien, regardez le Burkina Faso aujourd'hui et le Mali. Aujourd'hui, il y a une rupture quasiment avec la France, qui était quand même le plus gros bailleur de fonds, les plus gros programmes de coopération. Ben aujourd'hui, la France n'est plus la bienvenue. Il y a quasiment rupture, il n'y a plus d'ambassadeurs. Ils ont demandé l'exclusion. Les Russes arrivent, mais ils n'arrivent pas avec des problèmes de santé. Ils arrivent avec Wagner et des mercenaires.
Et les Chinois.
Donc moi.
Et les Chinois.
Et alors les Chinois, ils ont agi beaucoup plus au niveau des infrastructures qu'au niveau de programmes purement sanitaires. Ils ont construit des hôpitaux. Le dire, des infrastructures routières, mais pas vraiment de programmes sanitaires. Et si vous voulez, ils n'ont pas cette histoire qu'a la France en particulier, mais aussi la Grande-Bretagne, parce que c'est l'histoire de la colonisation qui avait quand même une approche sanitaire importante. Vous l'avez rappelé tout à l'heure avec les équipes mobiles dans un certain nombre de domaines. Un autre organisme, voilà, vous m'avez posé la question, je vous ai dit qu'un succès, c'est le Fonds mondial. Le deuxième que je citerai et qui pour moi est un succès, c'est Gavi, Global Alliance for Vaccine and Immunization, financé en grande partie par la Fondation Gates, qui a nettement élevé, si vous voulez, l'accès aux vaccins, en particulier des enfants, avec un taux d'immunisation extrêmement bon. En tous les cas, sur les maladies infantiles, je pense en particulier diphtérie, tétanos, rougeole, oreillon, fièvre jaune. Et ça, c'est vrai que le niveau de vaccination dans les pays du Sud s'est nettement amélioré. Après ça, sur tout le reste, si vous voulez, à part quelques maladies, le sida, ça a bien marché, la tuberculose, beaucoup moins. Je suis frappé par les chiffres de la tuberculose. Vous êtes aujourd'hui sur 10 millions de nouveaux cas par an. On est sur 1,5 à 2 millions de morts liées à la tuberculose par an, avec malheureusement une montée de la résistance aux antituberculeux qui est autour entre 8 et 10% aujourd'hui, oui. Avec un traitement qui est long. Et quand vous parlez de traitement long, c'est comment on soit certain que les gens prennent bien leurs médicaments, puisque le traitement minimal, il est de 6 mois, et pour des formes résistantes, il est de 12 à 18 mois. Comment vous serez certain, et moi j'ai vu une étude en Afrique du Sud, vous savez que le traitement de la tuberculose, pendant 2 mois, vous avez de la rifampicine d'isoniazid, et ensuite, pendant 2 mois, vous avez 4 médicaments, rifampicine, isoniazide, ethambutol, pyrazinamide. Et après, pendant 4 mois, vous avez 2 médicaments, rifampicine, isoniazide. Alors, ce qui se passe, c'est que au début, les gens prennent les médicaments, le premier mois. Au bout d'un mois, ils ne toussent plus, ils n'ont plus de fièvre et ils arrêtent. Et ils restent contagieux et ils contaminent leur entourage parce qu'on ne vérifie pas la prise de médicaments. Et donc ça, c'est extrêmement important. Je répète cette notion d'observance. Et dans certains pays, c'est demain avec le sida, où on donne les médicaments aux personnes, mais vous n'êtes pas certain, alors qu'on sait que c'est un traitement chronique et que si vous ne prenez pas vos antirétroviraux tous les jours, vous allez avoir une remontée de la charge virale et une diminution des T4 et donc l'apparition d'infections opportunistes.
Pour venir à un niveau plus haut, si on peut dire, qu'est-ce que tu as noté comme différence?
Oui, allô?
Oui, allô?
Oui, allez-y, c'est bon.
Et qu'est-ce que tu as noté comme différence dans tes programmes que tu as menés entre les différents continents, entre l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, par exemple?
Bon, alors, vous n'allez pas être surpris, hein, c'est que l'Asie, j'ai trouvé des bonnes ressources humaines partout, avec une volonté réelle. Amérique latine, pareil. Alors, bien sûr, il peut y avoir des différences entre, bien sûr, certaines régions du Brésil, de Bolivie, et l'Afrique. Et l'Afrique, là aussi. Alors, l'Afrique du Sud, j'ai trouvé plus de bonnes ressources humaines. L'Afrique subsaharienne, beaucoup moins. Beaucoup moins et moins de volonté politique. Et puis, pardon pour notre pays, je trouvais, mais ça, c'est mon expérience, hein, peut-être qu'elle n'est pas partagée par tout le monde, que l'Afrique anglophone marchait mieux que l'Afrique francophone.
Oui. Bon, alors, maintenant, d'ailleurs, je voudrais, pour revenir un peu sur le problème de l'observance. Hein,
oui, très important.
Tu sais que je travaillais dans les laboratoires pharmaceutiques. Hein, j'étais oui. Médecin export chez Delagrange. Et on avait, en 1987, rédigé une étude qui s'appelle « L'observance en Afrique ». Thème de recherche. Donc, ça fait des décennies que ça existe, ce problème.
Et donc, vous étiez conscient de ça déjà?
Évidemment, on savait. C'est évident qu'on sait que l'observance diminue progressivement. Plus ça dure, plus l'observance diminue. C'est proportionnel. Donc, donc c'est pour ça qu'il faut c'est forcer d'avoir des traitements, comme on dit, traitements de minute. Comme ça, il n'y a pas.
Mais on peut pas sur toutes les maladies.
Ah, non, je sais bien, mais l'effort doit porter sur cette. Bon, alors.
Ben, j'ai une bonne nouvelle là-dessus. Juste, j'ouvre une parenthèse. Il y a un médicament qui va être développé par DNDi, oui. Qui fait partie de la famille des borol, B-O-R-O-L-E. Je ne sais pas si c'est l'oxyborol. Enfin, il y en a plusieurs. Dont un va permettre un traitement de la maladie du sommeil en traitement minute, une seule dose.
Ah, c'est magnifique. C'est magnifique.
Alors là, on pourra peut-être arriver à l'élimination de cette maladie. Je referme la parenthèse.
Oui, parce que je voudrais revenir sur les ONG. Parce que souvent, tu as cité les ONG comme des effecteurs sur le terrain, qui se substituent d'ailleurs parfois aux carences locales. Mais quels sont les avantages et les inconvénients? Parce que qui coordonne les ONG? Parce qu'il y a des problèmes de duplicité des programmes, il y a des problèmes de rivalité, il y a des problèmes aussi d'action transitoire.
Tu sais, avez raison, vous avez 1000 fois raison. Sauf que, à partir du moment, si vous voulez, où localement vous n'avez pas, elles peuvent rendre un certain nombre de services si ce service est intelligent. Et vous avez raison de dire que parfois il y a des doublons, et je me souviens de certaines expériences où vous aviez des ONG qui décidaient comme ça, de leur propre chef, de faire des campagnes de vaccination, alors que l'UNICEF était passé quelques mois auparavant, ils avaient fait des programmes élargis de vaccination, les ONG arrivaient derrière et revaccinaient les enfants. Ouais. C'est dramatique.
Ah oui.
C'est dramatique, mais ça a existé. Et normalement, si vous voulez, dans un pays bien géré, et là on en revient aussi à la politique, vous devez savoir exactement quelle est l'ONG qui vient, quelle est sa spécialité et qu'est-ce qu'elle va faire exactement. Et elle va pas faire de doublons avec des structures qui existent déjà, ou si elles n'existent pas, elles vont les remplacer. Mais il faut qu'il y ait un contrôle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains pays, il n'y a aucun contrôle et que vous arrivez avec quelques milliers d'euros et vous allez essayer, moi, je vais changer la vie, je vais faire ça. Et puis, je repars le lendemain, je repars 2 mois après ou 1 an après sans avoir fait la moindre évaluation. Ouais. Et quelque part, c'est un désordre auquel il faut remédier. Vous avez raison. Je ne peux que je l'ai remarqué.
Est-ce que, et aussi le fait que ce sont souvent des actions transitoires qui durent des mois, des semaines.
Oui, c'est des one-shot et qui partent. Voilà. Alors que ce qui est très important, c'est de maintenir. Quand on parle de traitement chronique, du sida, vous pouvez pas partir au bout de 3 mois. Vous devez rester et continuer à surveiller les gens. S'il y a la moindre résistance, le moindre échappement, si vous voulez, c'est une maladie mortelle. Donc, tout le bénéfice que vous allez avoir, vous allez le perdre. C'est pour ça que il y a aucune, la santé n'est pas, la politique de santé, pardon, n'est pas une politique à court terme. C'est une politique à long terme qui mérite des évaluations permanentes.
Oui, et les actions des ONG, souvent, se substituent au manque dans le pays en cause.
Ah oui, parce qu'il y a un besoin. Voilà. Mais si ça n'est que transitoire, c'est vider l'océan avec une petite cuillère, malheureusement.
Oui, alors j'ai dit duplicité, je m'excuse auprès de mes auditeurs francophones, que mon français part un petit peu.
Non, il y a des.
Vous voulez dire doublon.
Non, il y a des ONG formidables, Médecins sans frontières, globalement, fait un très bon travail. Voilà. Et il n'est pas tombé dans le piège. Ils ont effectivement les moyens de faire un bon travail et de ne pas se substituer systématiquement aux autorités sanitaires. En tous les cas, de travailler avec elles et de laisser, quand ils partent, de laisser des structures pérennes. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois un rôle opérationnel dans l'immédiat, mais ils forment en même temps des gens pour, si vous voulez, leur donner les chemins de l'autonomie.
Alors, sur cette note positive, je voudrais qu'on termine sur les solutions. Qu'est-ce que tu envisagerais par ton expérience, basé sur ton expérience, de solutions que tu vois qui sont pas mises en place?
Ben déjà de conditionner l'aide, aussi bien pour les organisations internationales que pour la coopération bilatérale, de conditionner l'aide sur la réalité des problèmes dans le domaine de la santé et de donner un certain nombre de priorités. Et quand on donne des priorités, il faut qu'au niveau budgétaire, ça suive. Et souvent, ce n'est pas le cas.
Oui.
C'est vraiment les aider à créer une sorte d'état de droit dans le domaine de la santé avec des moyens. Si vous n'avez pas les moyens, et quand je parle de moyens, ce n'est pas que de l'argent, c'est des moyens humains. Il faut absolument éviter cette fuite des cerveaux. C'est pas possible. Parce que qui dit fuite des cerveaux et dit un état déplorable de la santé, ça va être des migrants. Et on voit bien le problème des migrants et des réfugiés aujourd'hui. Les gens, il y a le changement climatique, il y a les problèmes sanitaires, il y a les problèmes des guerres. Les gens, ils quittent leur pays. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez des gens qui meurent en Méditerranée parce qu'ils veulent aller dans des régions, ils vont être pris en charge d'un point de vue sanitaire. Ils traversent des zones entières de l'Afrique avec toutes les misères humaines, les morts sur le chemin. Et puis en plus, vous avez, chère Yann, vous le savez, la pathologie des migrants. Chez les migrants que nous recevons même en France et dans le service que vous connaissez bien, on a des tas de personnes qui arrivent avec des tuberculoses, des sida qui n'ont pas été traités, mais des tuberculoses parce que la tuberculose est une maladie typique des migrants. Vous savez, vous connaissez la réalité de la tuberculose latente en particulier. Vous savez qu'il y a des milliards de personnes dans le monde, peut-être vous et moi, on peut avoir le BK dans son organisme sans être contagieux, sans être malade, mais le fait que vous soyez un jour prisonnier, que vous ayez une infection et que votre mode de vie change du fait de la migration, vous allez passer de la tuberculose latente à la tuberculose active. On a eu, il y a 15 jours dans le service, on avait 10 lits qui étaient occupés par des Géorgiens qui avaient des tuberculoses, qui avaient migré et qui avaient des tuberculoses, en plus des tuberculoses résistantes.
Donc ça soulève deux problèmes. Le problème de la gouvernance. Est-ce que...
Ah ben oui.
La gouvernance, donc là, à mon avis, il y a une action prioritaire. Et aussi, ça c'est pour le long cours, mais à court terme, intervention dans les pays en cas de crise sanitaire, donc au niveau international. Une espèce de casque bleu de la santé.
Vous avez raison, mais encore, il faut être accepté et le faire d'une manière intelligente. Ah, voilà. Vous avez vécu comme moi la crise d'Ebola en Afrique. La crise d'Ebola en Afrique, effectivement, il y a eu une aide massive de l'Occident dans des pays qui ont été très touchés comme la Guinée et d'autres par la fièvre Ebola. Mais les populations ne comprenaient pas. Quand les médecins arrivaient, Médecins Sans Frontières ou même des médecins africains habillés comme des cosmonautes et qu'on interdisait aux gens de voir le corps des victimes parce qu'ils étaient contagieux, ben ils ont tué des médecins parce qu'on leur avait pas expliqué quelle était cette maladie. Et donc ils voyaient arriver ces gens, des extraterrestres qui leur interdisaient de voir les cercueils, de voir leurs personnes mourantes, ils n'arrivaient pas à faire leur deuil. Ça a été terrible, il y a eu un choc culturel majeur. Parce que le manque de compréhension culturelle, c'est bien d'agir dans des pays, mais il faut connaître aussi leur culture.
Oui, c'est pour ça que la médecine ne peut pas agir isolément. Il faut.
Mais tout à fait d'accord.
Il faut que dans les équipes, il y ait des sociologues, des psychologues, des anthropologues pour pouvoir agir efficacement sur le terrain. Ouais,
Commencez à arriver dans un pays, vous allez dire voilà, moi, le type, il a des hallucinations, il a des crises d'épilepsie, moi, je vais vous le soigner. Mais ils vont pas vous croire, ils vont dire mais non, il est habité par un esprit. Si vous comprenez pas cette réalité, parce que ça fait peur la maladie mentale, je reviens à la maladie mentale. Donc si vous expliquez pas aux gens, c'est une maladie. Ne parlez pas de médicaments, c'est une maladie. Vous expliquez ce que c'est, vous expliquez aux marabouts qui jouent un rôle extrêmement important. Et donc le problème, vous pouvez pas parachuter une culture occidentale sur une culture africaine ou autre si vous l'avez pas comprise. Si vous n'avez pas expliqué aux gens que voir quelqu'un qui est mort de la maladie d'Ebola, qu'il est contagieux si on touche le corps, si on l'embrasse, si vous n'expliquez pas ça aux gens, mais les gens, ils vont vous dire, mais qu'est-ce que vous venez m'emmerder avec votre tenue, là, vous m'empêchez. Oui, ils ont tué des médecins et des soignants.
Oui, et bien.
Parce que on est arrivés comme des extraterrestres. Nous, on est les plus forts, on va vous expliquer.
Ça ne se limite pas d'ailleurs aux maladies contagieuses, parce que l'albinisme, les albinos ont été...
L'albinos, il est tué. Voilà. Exactement. Vous avez tout à fait... Ça, c'est un exemple typique.
Bon, eh bien, écoute, Robert, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette...
Mais moi, c'était passionnant avec vous de refaire tout ça, parce que il y a un vrai sujet aujourd'hui et qu'il faut absolument combler le problème sanitaire entre le Nord et le Sud. Parce que sinon, le monde est un et on ne pourra pas supporter, si vous voulez, si vraiment ces pays-là ne trouvent pas de solution à leurs souffrances, à leurs problèmes de santé, ben ils essaieront de venir chez nous, ce qu'on peut comprendre. Mais on ne pourra pas absorber toute la misère du monde. Donc, ce qui est très important, si vous voulez, c'est cette aide au développement. C'est améliorer localement les structures sanitaires, l'accès, tout ce que vous voulez, pour éviter effectivement ces migrations.
Très bien. Je vais conclure sur cette phrase pleine de sagesse. Et je vais dire quelques mots en anglais pour terminer. Well, thank you so much, Robert, for this enlightening and entertaining also at time conversation about the importance of access to medications in developing countries. So I say goodbye to everybody. And see you next time for the next episode. Bye-bye.